et nous revoilà pour une émission collective du projet Saint-Marcomde. Saint-Marcomde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marcomde.
Bonjour à tous.
Faut rêver.
Bonjour à toutes.
Faut toujours rêver.
Mais en fait, on vit dans un monde où si t'as pas d'argent, t'as rien.
Cœur paillette.
Quand tu rêves, peut-être tu réaliseras tes rêves.
Merci à vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Saint-Marcomde, le projet radiophonique de l'AMO Saint-Marcomde. Vous êtes avec Joséphine, je suis en compagnie de Céline.
Bonjour.
Bonjour Céline. Et nous sommes ici en compagnie d'une classe de 4e de l'Institut Reine Fabiola, qui sont venus prendre part à cette émission aujourd'hui avec nous. Et je vais vous proposer de vous présenter en commençant par ma gauche.
Bonjour, moi je m'appelle Sabri, j'ai 18 ans et je suis un étudiant à l'Institut Reine Fabiola.
Bonjour Sabri.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Ethan, j'ai 14 ans, je suis étudiant de l'Institut Reine Fabiola.
Bonjour Ethan.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Safia, j'ai 17 ans et je suis étudiante à l'Institut Reine Fabiola.
Bonjour Safia.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Talia.
Bonjour Talia.
Bonjour, moi c'est Eda Latur, j'ai 17 ans et je suis élève à l'Institut Reine Fabiola.
Bonjour Eda Latur.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Kyle et j'étudie à l'Institut Reine Fabiola.
Bonjour Kyle.
Bonjour, moi c'est Morgane et j'étudie à l'école Reine Fabiola, Institut Reine Fabiola.
Et bonjour Morgane, ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même la question du bien-être. Hein, on en a pas mal parlé avec vous en animation. Mm-hmm. Et la première question que je voulais vous poser, moi c'est pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous la notion du bien-être? À quoi ça vous renvoie vous le bien-être?
Le bien-être ça dépend des situations où on est. Ça peut être les sentiments, l'endroit où on est, avec les amis, la famille, et etc.
Mm-hmm. C'est aussi un rapport avec la santé. Se sentir bien dans sa peau, être en bonne santé, ça peut aider à être de bonne humeur.
De bonne humeur, oui. Et qu'est-ce qui participe à votre bien-être, vous, dans votre quotidien?
Moi, je trouve que c'est l'amour des proches qui sont là pour nous, qui sont là pour nous écouter.
Mmh. Voilà. Et pour les autres?
Oui, ça vient de l'entourage, quoi, avec les personnes qu'on est entourées en termes d'amis, d'amour ou de famille.
Mmh. Donc l'entourage, en tout cas, participe à votre bien-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui participent à votre bien-être au quotidien? Des activités, des...
Le sport.
Le sport, oui.
Oui.
Les hobbies.
Mmh. Est-ce que c'est important de se sentir bien?
Oui.
Oui. Est-ce que vous pourriez dire quels sont les moments où vous vous sentez le plus heureux, le ou la plus heureuse dans vos vies?
Quand c'est les vacances.
Quand c'est les vacances.
Ouais. Quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie vraiment.
Mm-hmm. Est-ce que tu aurais des exemples à donner, Ethan?
Par exemple, quand on va faire une activité sportive ou quoi, et que c'est le sport qu'on kiffe, bah voilà.
Mm-hmm. Et vous avez parlé de l'entourage. Est-ce que pour vous, l'entourage, il a un rôle central dans notre sentiment de bien-être?
Oui.
Oui, pourquoi?
Parce que grâce à notre entourage, on peut recevoir des compliments ou des conseils pour mieux s'entretenir et vous permettre d'avancer, ce qui peut aussi nous faire sentir un peu mieux.
Mmh. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait alors entraver notre sentiment de bien-être, du coup, à contrario? Qu'est-ce qui pourrait rendre difficile un état de bien-être?
Les mauvaises habitudes, les fréquentations. Si on a des mauvaises fréquentations qui nous tirent vers le bas, ben on ira forcément vers le bas. Ou si on a des vraiment mauvaises habitudes qu'on prend conscience que c'est des mauvaises habitudes et qu'on continue, on sait que ça ne va pas nous être bénéfique dans le futur.
Mmh. Est-ce que vous auriez des exemples de mauvaises habitudes qu'on pourrait prendre? Et Dalature, tu voulais réagir?
Oui, mais j'ai perdu mes mots.
Tout ça pourrait être des mauvaises habitudes qui mettraient à mal notre bien-être?
Bah, les mauvaises fréquentations en tant qu'amitié.
Mm-hmm.
Les relations toxiques.
Les relations toxiques, Safia?
Je trouve que moi, c'est plus le fait de ne pas en parler aux autres. Donc ça peut être une mauvaise habitude, mm-hmm, de garder tout pour soi.
Oui. Et est-ce que c'est facile de toujours se confier aux autres?
Non.
Non?
Je trouve que ça dépend du sujet.
Oui, ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui permet du coup alors de se confier aux autres?
La confiance qu'on a par rapport aux autres personnes avec qui on parle.
Mm-hmm. Ouais.
La confiance qu'on a acquérée au fil du temps avec la personne en question.
Et selon vous, comment on établit un lien de confiance? C'est toujours facile d'établir un lien de confiance avec quelqu'un?
en voyant ses actes, si elle se comporte de manière assez droite envers nous, si on voit qu'elle répète pas ce qu'on lui dit de privé.
Mm-hmm. Si quand par exemple elle fait une erreur, bah elle s'excuse d'avoir fait cette erreur.
Est-ce que c'est tout... pensez qu'il est toujours facile d'aller mieux ou de montrer qu'on va bien entre guillemets? Est-ce que des fois, vous ne pensez pas qu'on revêtit une façade aussi parce qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable aux yeux des autres?
En fait, tout dépend aussi de la famille, genre dans ta maison. Si dans ta maison, tu es heureuse, ben, tu es quelqu'un qui est heureuse, même si tu n'as pas beaucoup d'amis, mais quand même, ça va chez toi. Mm-hmm. Il y a des personnes qui ne sont pas bien en termes de parents. Genre, elle ne s'entend pas bien avec ses parents, donc ça vient dans son mental. Et genre, ça se voit qu'elle n'est pas bien et tout.
Ouais. Donc la famille joue un rôle central quand même pour vous, hein,
oui,
dans cette situation. Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de, ben, quand la famille justement elle remplit pas ce rôle comme tu disais d'à la turque?
Bah, on cherche l'amour chez les amis ou chez les, oh, vu que je suis une fille, chez les garçons.
Je voulais aussi vous demander qu'est-ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup de la dépression quand même comme étant la maladie du 20e siècle. Est-ce que vous savez repérer c'est quoi un état dépressif? C'est quoi être en dépression?
C'est quand on a beaucoup trop de pensées négatives.
Oui.
Ça veut dire penser à des trucs inimaginables.
Mmh. Et est-ce qu'on arrive, pensez qu'on arrive toujours à identifier quand on est en état de dépression?
Bah quand on se sent vraiment pas bien dans sa peau, que aller à la maison ça va pas, à l'école ça va pas, qu'on fait beaucoup trop de bêtises, parce que justement ça va pas.
Moi je me posais la question, enfin c'est quoi la différence pour vous entre un moment de la dépression et un moment où t'as un coup de mou quoi? C'est quoi qui fait la différence?
Bah que le moment où t'as un coup de mou, bah ça va passer au bout d'un moment. Genre, ça dure le temps d'une journée, par exemple. Tandis qu'une dépression, ça peut durer sur du long terme.
Mmh. Ouais. Et est-ce que vous connaissez des personnes à qui c'est déjà arrivé d'avoir un coup de mou ou d'être dans un état peut-être de dépression?
Bah ça peut arriver à tout le monde, à nos professeurs, à nos parents, à nos familles, à nos amis, même à pour soi-même quoi.
Mmh. Et est-ce que vous avez des ressources, vous avez des personnes de confiance chez qui, en qui vous pourriez vous confier si jamais ça devait vous arriver ou quand vous vous sentez pas bien, quand vous avez un petit coup de blues justement
Pas forcément tout le temps, de temps en temps, il y a certaines personnes qui préfèrent ça garder privé et essayer de régler ça par eux-mêmes. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, si on en parle à quelqu'un, c'est vraiment que on en a besoin à un gros niveau. Et je trouve que c'est un moment dans la dépression qui montre à quel point l'importance d'avoir un bon entourage peut améliorer notre santé mentale.
Mm-hmm. Ben, en fait, il a un peu résumé ce que je voulais dire, mais je trouve que c'est important d'avoir un lien avec ses parents. Surtout, enfin, moi personnellement, c'est avec ma mère, je lui dis tout. Que je sois pas bien ou les moments heureux que je vis, je lui dis forcément tout. Donc voilà, moi j'ai une personne à qui me confier et c'est ma mère. Voilà.
Il faut toujours bien choisir ses amis pour se confier. Et si tu vois que la personne se confie aussi à toi, ben, c'est une personne que tu peux dire tout, que tu peux te confier à cette personne.
Mmh. Et comment on choisit ses amis? Tu dis bien choisir ses amis?
Ben, en regardant les actes qu'elle fait, comment elle se comporte, si elle se moque de toi avec les autres, si elle te défend contre les autres, ben, ça vient de tous les actes qu'elle produit, quoi.
Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ça, les autres?
Moi, je trouve qu'on reconnaît les vrais quand ils te demandent souvent comment tu vas, s'ils voient dès que tu te sens pas bien. Et voilà.
Ben, je vous remercie. On va déjà faire une première pause musicale. Et je vous propose de lancer Ice Spice, Delete First. If he's cheating, I'm doing him worse. No, Uno, I hit the reverse. I ain't chipping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he's cheating, I'm doing him worse. I ain't chipping up. I ain't chipping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. He begged me to stay, but I'm dipping. I don't even chip, but I'm sipping. We not fucking, but he put the tip in. He get on my nerves, but I'm with it. I start thinking when he get up in it. I'm like, damn, I knew you for a minute. I don't want them niggas in our business. I'm like, babe, you know you the realest. I'm like, fuck it, I know he gon' spend. I'm with Dottie and her thotty friend. He like, fuck it, we fuckin' his friends. We gon' party till the party end. I'm a baddie, he fuckin' my tats. Big boobs and it come with a jock. Say he don't want me, I know he a cop. Oh, you cheating, then I'm cheating back. If he cheating, I'm doing him worse. No Uno, I hit the reverse. I ain't chipping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he cheating, I'm doing him worse.
I slept with. She investigating detective. Lucky for me, I deleted her message. All along it was me and a bad bitch, but I told her it was me and my brethren. By the end of this verse, I'll be done. I guess we gon' see it like 16 seconds. If I went court for all of the times I got caught, I'd have about 16 felons. I keep coming with stupid excuses, like I was juiced and tripped and felon. I might take the risk, DM it, but I don't know, could these chicks be telling? At the minute, I'm hitting some risky women, I clearly ain't learned my lesson.
If he's cheating, I'm doing him worse. No, uno, I hit the reverse. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first. If he's cheating, I'm doing him worse. I ain't tripping up. I ain't tripping the grip in my purse. I don't care, cause he did it first.
Alright.
On est de retour après cette petite, cette courte pause musicale. On parlait juste avant de la notion de bien-être et vous parliez aussi de, du fait de pouvoir se confier aux autres personnes quand on ne se sent pas bien, quand on a un petit coup de blues. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on se confie toujours de la même façon aux personnes en fonction des situations que l'on traverse et que l'on vit ?
Non, parce qu'il y a des situations un peu plus honteuses où on va essayer de cacher quelques détails et quand même chercher un peu d'aide d'une autre personne.
Moi je trouve que si, parce que les personnes qui vivent la même chose que toi, on a plus facile à s'exprimer, on ressent souvent la même chose. Et on en parle et on s'aide au mieux.
Ouais. C'est plus facile de se confier aux personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Vous êtes d'accord avec ça les autres ?
Oui.
Et est-ce que vous pensez que la société nous permet toujours de nous montrer vulnérables ?
Non, pas forcément. Ça dépend des milieux et des temps. De temps en temps, par exemple, nous, on est des étudiants, on va prendre l'exemple de l'école. De temps en temps, il y a certaines écoles, on va leur en parler, mais ils vont préférer prendre ça comme de la fainéantise ou quelque chose dans le genre au lieu de prendre le sujet au sérieux.
Et pour prendre le sujet au sérieux, il faudrait faire quoi, tu penses ?
La plupart des écoles demandent des avis
extérieurs,
médicaux, etc. Et ils ne prennent pas trop en compte l'avis de l'élève et le point de vue de l'élève. Okay.
Donc il faudrait qu'il y ait une meilleure prise en compte de vos points de vue, en fait. Vous avez donc le sentiment que votre parole n'est pas vraiment prise en compte, du coup. Et c'est seulement à l'école que vous avez ce sentiment-là ?
Non, pas forcément. Il y a des adultes qui ont le même sentiment au travail ou dans des activités sportives aussi. Quelqu'un qui s'entend bien avec son coach, qui peut lui parler. S'il lui parle et le coach est compréhensif, le coach fera tout ce qu'il peut pour aider son petit. Mais il y a des coachs aussi qui ne vont pas prendre ça au sérieux et qui vont continuer à pousser, par exemple, des entraînements un peu trop forts. Pour l'élève.
Trop intensif.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors selon vous pour changer cela ?
Être plus à l'écoute de la personne qui vient vers vous, comprendre et prendre au sérieux.
Et comment on se met à l'écoute ? Est-ce qu'on est tous capables de faire ça selon vous ?
Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Il y a des gens, au lieu de te prendre au sérieux, ils vont commencer à se moquer de les situations que tu leur dises. Ils vont croire que tu mens, mais alors que c'est simple la vérité, mais ils ne vont pas te trop calculer, on va dire.
Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place pour faciliter ça, justement ?
En fait, ça dépend aussi de la personne. Si elle ne sait pas se confier, ce n'est pas les mises en place qui vont changer. C'est la personne, elle doit savoir apprendre la parole, à se confier à les autres gens pour qu'on l'aide. Si elle veut de l'aide, elle est capable de tout faire. Mais si, par exemple, elle ne veut pas de l'aide, alors ça ne va rien changer dans sa vie si on met des situations pour qu'elle parle.
Et quand vous, ou bien si vous, vous traversez des difficultés, par exemple, à l'école, est-ce que vous savez, vous pouvez vous confier au sein de l'école ?
Chez l'éducatrice ou même chez la direction, si ça va trop loin.
Et vous pensez que ce sont des recours auxquels les jeunes, enfin c'est des recours que les jeunes prennent régulièrement ou pas ?
Moi, je pense pas vraiment parce que la plupart des éducateurs, ils vont essayer d'être un peu sympa, cool, pour un peu intégrer, on va dire, notre jeunesse, sans forcément prendre en compte ce qui peut être aussi mal dans notre jeunesse. Ils vont prendre le bien, essayer d'agir de façon un peu cool avec nous, et si on leur en parle, ils vont se dire qu'on passe juste une mauvaise passe, que ça arrive, que tous les jeunes ont ça, et que c'est juste quelque chose de temporaire.
Ok. Vous êtes d'accord avec son senti, Edalet Turc?
Moi, je vais parler à mon nom. Moi, je suis quelqu'un qui a difficile à se confier à des gens inconnus. Moi, je me confie plus aux personnes que j'ai passé beaucoup de temps avec. Elle m'a vue dans telle et telle situation. J'ai plus facile à me confier à mes amis et à ma mère qu'aux autres adultes ou aux autres élèves de l'établissement.
Et de manière générale, au sein des établissements, il n'y a pas des éducateurs avec qui vous, ou des profs avec qui vous arrivez à lier des liens de confiance?
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qui permet ça, du coup?
Bah, que le prof soit cool, mais pas trop. Qu'il soit juste parfait, genre.
Et c'est quoi être cool, du coup, pour toi, Ethan? Ce serait quoi être cool pour un prof?
Bah, c'est plus être à l'écoute, genre bien à l'écoute, prendre en compte tout ce que l'élève dit, l'aider à devenir meilleur.
Donc si vous sentiez qu'il y avait vraiment une réelle prise en compte de votre parole, une vraie écoute, vous pensez que vous iriez beaucoup plus facilement vers les éducateurs et les professeurs pour vous confier?
Oui.
Oui. C'est, oui, de la Turc.
Ici, on a la chance que dans notre établissement, nos profs de l'Institut Reine Fabiola, ils sont très sympas. Ils sont, genre quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pas pour problèmes familiaux, mais pour les problèmes de l'école, les cours, ben, ils sont là à t'écouter, à te réexpliquer pour que tu comprends jusqu'à la fin. Mais il y a des établissements que même ça, c'est mort. Ils t'expliquent une fois et c'est fini, quoi.
Oui, Safia.
Désolée. Moi, je trouve que, personnellement, moi, j'arriverai jamais à me confier à un prof, que ce soit dans cette école où je suis ou dans une autre, parce que c'est simplement le fait qu'en fait, ils ne sont pas familiers avec moi. Donc, certes, on peut créer des liens dans les cours pour apprendre, mais rien d'autre. Pour moi, ça s'arrête là. C'est pas quelqu'un de la famille ou. Voilà, pour moi, c'est comme un inconnu plus qu'autre chose.
Ouais. Toi, tu aurais une familiarité pour pouvoir te confier, te sentir à l'aise, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pensez aussi que l'éducation, elle joue un rôle dans la manière dont on gère nos émotions, dont on arrive aussi à se confier aux autres éventuellement?
Bah, je pense pas, c'est plus nous, on se crée notre propre carapace ou pas. C'est en fonction de ce qu'on ressent qu'on va se confier ou pas.
Moi, je trouve que l'entourage joue un jeu, mais très fort sur comment on va se développer plus tard et pouvoir se confier. Par exemple, une mère qui va toujours être à l'écoute de son enfant, toujours essayer de comprendre ce qui va pas, l'enfant aura plus facile à se confier qu'une mère qui va directement s'énerver dès qu'un truc lui plaît pas par rapport à l'enfant ou ne pas essayer de comprendre le point de vue de son enfant.
Oui.
Moi, je suis totalement d'accord avec Sabri et nous avec Ethan. Ok, on peut se créer une nouvelle personnalité avec ceux qu'on a grandi, mais si si nos mamans ou nos papas ils étaient à l'écoute qu'on avait besoin d'eux, on serait d'abord confié à eux. Alors que de chercher de l'aide aux autres.
Oui. Ah, oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aussi avoir à la fois un soutien de la part de sa famille et trouver aussi des ressources à côté, ailleurs?
Bien sûr, on peut avoir des amis sur qui compter, etc. Ça dépend de plein de facteurs. Une personne qui a par exemple honte de parler de ses soucis, il ne va pas forcément montrer à ses amis que ça va mal, etc. Il va plutôt dire que tout va bien et aller se confier autre part.
Moi, je m'interroge sur ça que tu disais, Sabri, justement, tu parlais de la honte d'admettre qu'on ne va pas bien, ou de la honte de parler de nos problèmes, de nos soucis. Pourquoi on a ce sentiment de honte quand on a des soucis?
Parce que c'est un moment où on est le plus vulnérable, à peu près. Si je prends l'exemple de la dépression, nos sentiments, ils sont pas totalement bien faits, je dirais. On peut être blessé pour rien, s'énerver pour rien. C'est pas un moment où on va être heureux de montrer qu'on est vulnérable.
Oui, Ethan.
Moi, je pense que c'est plus, on a honte d'être triste pour une raison qui pourrait être bête pour une autre personne.
Ok, donc ce serait plus par le jugement des autres.
Oui. En fait.
Ok. Ouais. C'est pareil pour les autres ou il y a de la nature ?
C'est pas que pour le jugement, c'est aussi par le regard. Il y a des personnes qui ne savent pas se confier parce que les gens, ils le regardent avec la peine quand ils racontent leur histoire. Alors que la personne, elle ne veut pas raconter ses histoires pour que les gens, ils n'ont pas la peine pour elle ou pour ils.
Oui. Et donc, c'est aussi la peur de, que les gens changent leur comportement vis-à-vis de vous.
Oui, voilà.
Une fois que vous leur confiez vos difficultés, quoi. Mmh. Et est-ce que vous trouvez normal qu'on ait ce sentiment de honte, en fait, quand on a des problèmes ?
Non, parce qu'on devrait être à l'aise avec les personnes qui nous entourent, d'avoir l'impression que la personne nous écoute.
Après, moi, je me posais quand même la question, je reviens avec cette question de la honte, quoi. Mais je me demande qu'est-ce qui fait qu'on a honte, quoi. Enfin, vous vous dites c'est le regard des autres, mais qu'est-ce qui fait qu'on a peur du regard des autres ? Enfin, pour vous ?
La fierté.
Toi, c'est la fierté, ouais.
Il y a la fierté qui joue, et aussi le changement de comportement, la façon dont la personne va nous voir. Si de base, la personne nous voyait comme quelqu'un d'assez joyeux, qui rigole tout le temps, et elle va nous voir tout triste, et, etc., on a peur de comment elle va réagir. Peut-être elle va le prendre pour rigoler. On ne sait pas trop comment la personne en face va réagir face à ce que nous, on va dire.
Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de moquerie ou d'irrespect parce qu'à un moment vous vous livrez parce que vous êtes plus fragile ? Enfin, c'est des choses que vous avez déjà vécues ou...
Moi, je me suis déjà livrée à des personnes et c'était des personnes de confiance. Malgré que j'ai dit ce que je pensais, ils sont partis. Je n'ai plus une nouvelle depuis ce que j'ai raconté. Donc, moi, depuis ce jour-là, je ne raconte presque plus rien à part à ma mère, du coup.
Oui, écoutez. Oui, donc ça fait vraiment appel au lien de confiance, en fait, aussi, quoi.
Oui, c'est... Mais oui.
De manière générale, est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui vont bien ?
Non, il y a beaucoup de cas de dépression chez les jeunes en ce moment, que le monde va mal.
Oui.
Oui.
Moi, je trouve...
Oui,
Moi, je trouve que ça dépend... déjà de l'emplacement où on vit, de qui on fréquente, etc. Mais je trouve que si on est des jeunes à peu près à notre âge, c'est vraiment l'école qui va influencer ça. Par exemple, il y a certaines écoles qui vont plutôt préférer l'élitisme au bien-être de l'enfant et qui vont mettre une grosse pression sur l'enfant pour réussir sa scolarité, alors que l'enfant, peut-être, il avait d'autres projets futurs.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, les autres ?
Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit au début, s'il vous plaît ?
Sabri, peut-être dire ce que tu as dit, pour que puisse réagir.
Que certaines écoles préféraient mettre l'élitisme sur un enfant, et enfin l'éducation élitisme sur des enfants, pour préférer avoir, par exemple, je sais pas, une bonne réputation d'école, des bonnes notes, montrer que l'école va bien et que il y a un bon enseignement, alors que peut-être que l'enseignement est bon, mais le bien-être des élèves là-bas n'est pas forcément toujours bon.
Donc tu dis qu'on met plus de pression pour la réussite scolaire et qu'on fait moins attention à comment les élèves se sentent.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, de ça ?
Vous sentez ce sentiment de pression ou pas ?
Non.
Pas forcément dans l'école où on est, mais moi, j'ai été dans une autre école où... Cette école-là, même si les profs remarquaient que les notes baissaient, que l'élève était de moins en moins là, etc., ne se posaient pas plus de questions que ça. Et quand ils revenaient et rataient une interro, c'était des engueulades, des réflexions.
Oui. Vous avez répondu à ça. J'ai demandé qu'est-ce que vous pensez qu'on pouvait faire, mais vous aviez dit en fait... que les personnes se mettent plus à disposition d'écoute, quoi. Mais en même temps, quand il y a des dispositifs d'écoute tels que les PMS, moi j'entends souvent que les jeunes vont rarement faire appel à ces dispositifs-là. Pourquoi ? Comment ça se fait ?
Parce qu'on préfère de gérer nos problèmes de nos côtés, alors qu'aller en parler aux autres. Moi, perso, je trouve que c'est plus facile de gérer de mon côté qu'aller en parler avec des autres et mêler les autres à mes problèmes.
Oui. C'est pas un peu contradictoire? Enfin, là, je te prends un peu au mot. Mais vous dites, ouais, il faut que les profs nous prennent, nous écoutent plus, il y a plus de dispositifs. Et puis là, maintenant, tu dis, ouais, mais en fait, moi je veux gérer tous mes problèmes seul, quoi.
Non, pour parler aux profs, moi, j'ai pas de gêne. Mais pour parler au PMS et tout, aller dans les lieux spécialisés pour les problèmes, ben, j'aime pas.
Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui fait que t'as...
Je sais pas, je pense que c'est ma fierté.
Parce que c'est des choses qu'on entend souvent, ouais, aussi d'autres jeunes, pas spécialement votre groupe, mais qui disent qu'ils n'aiment pas aller dans des lieux spécialisés parce que, genre, il y a déjà une étiquette. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous vivez aussi les choses. Ou...
Ben, c'est parce que déjà, se confier à nos amis, c'est compliqué. Mais alors, si on doit se confier à des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qu'on connaît juste de nom, ben, c'est encore plus compliqué pour nous de se confier à cette personne.
Moi, personnellement, je trouve que le PMS, en soi, ce n'était pas une mauvaise idée. C'est plutôt les gens qui travaillent dedans. J'y suis allé une ou deux fois et personnellement, c'était une mauvaise expérience parce que je ne me sentais pas écouté. Ce que moi, je demandais, ben, ça voulait pas... Enfin, ils ne voyaient pas la raison de ce que moi, je demande, même si j'expliquais pourquoi je voulais ça. Par exemple, les aménagements scolaires. Et voilà.
Oui. Moi, comme vous avez dit pour le mot étiquette, moi, je trouve que ça nous met l'étiquette de faiblesse. Quand on va y aller au PMS pour voir, il te dit, genre, pour moi, les gens, j'ai l'impression qu'ils me regardent avec une faiblesse, genre, ah, elle est faible, on va avoir la peine pour elle et tout. Pas besoin.
Mais est-ce que c'est mal d'avoir des faiblesses? Est-ce que c'est mauvais d'avoir des faiblesses? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce qu'on n'a pas tous des faiblesses à un moment donné? Est-ce qu'on n'a pas tous avoir des faiblesses à un moment donné? Oui, Safia.
Je pense pas que ce soit mal parce qu'en fait, on en a tous des faiblesses, mais je pense que... Généralement, on veut pas que les autres aient de la vulnérabilité. Je pense pas que les autres.
Ne t'inquiète pas. Pas de souci.
Comment on dit
vulnérabilité.
Vulnérabilité.
Bref,
ce mot, oui.
Vulnérabilité.
Voilà. C'est tout.
Oui, et je reviens avec cette question encore. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas que les autres voient nos vulnérabilités? En quoi c'est mauvais qu'on puisse voir nos vulnérabilités?
Pour ne pas se sentir jugé, de voir le regard des gens sur nous, d'un regard de travers ou quoi, ça peut nous rendre mal.
Moi, je pense que c'est plutôt parce que, même si on n'a pas tout le temps conscience, il y a des mauvaises personnes. Et comme tout point faible, certaines personnes essayent d'appuyer dessus. Donc, c'est pour ça qu'on... on va dire, une honte ou une gêne d'aller dans des endroits comme ça où tout le monde peut nous voir aller à cet endroit-là.
Mais je vais juste retourner la question. Comment vous réagissez quand vous voyez quelqu'un qui a des vulnérabilités? Vous êtes comment, vous? Quand vous voyez quelqu'un qui va pas bien ou qui a une fragilité?
Moi, personnellement, si c'est pas quelqu'un de proche à moi ou vraiment quelqu'un que je connais pas, je vais pas penser plus loin. Je vais... voir la personne passer et rien de plus. Si c'est un ami à moi ou quelqu'un d'assez proche, je pense qu'après qu'il soit sorti d'un centre, enfin pas d'un centre, mais du PMS ou quelque chose comme ça, j'irai peut-être aller lui parler ou au moins essayer parce que la plupart des gens qui vont là-bas préfèrent parler de choses sensibles pour eux et pas forcément en parler à tout le monde après.
Mmh. Donc tu vas pas forcément le juger, quoi.
Non.
Mmh. Moi, je dirais que ça dépend aussi des personnes, comment ils sont de vue. Genre, si c'est une personne qui est joyeuse, qu'elle rigole, qu'elle est H24 là pour faire rire les gens, alors qu'il y a une autre personnalité qui se cache derrière ces personnes-là. Ou les personnes qui sont, on va dire le mot, aigries pendant toute la journée, ça vient de la famille. Pour moi, ça vient de la famille ou de l'amour ou de l'amitié qu'elle vient de perdre. Parce que si cette personne, elle est comme ça, c'est que ça veut dire qu'elle a déjà commencé, elle a déjà mal commencé sa journée et que ça continue comme ça pour le long de sa journée, quoi.
Mm-hmm. Et est-ce que ça vous touche, toi? Ça te touche quand vous voyez des personnes qui sont dans ce genre d'état?
Moi, je suis quelqu'un Moi, je suis quelqu'un qui demande si elle va bien. Et si elle me dit oui, ça va, mais tu peux me laisser tranquille, ben, je l'écoute et je la laisse tranquille, quoi.
Mm-hmm. Alors, d'où vient cette idée? Oui, Safia, tu voulais réagir? Ben, c'est ça, je me dis, parce que vous avez quand même des réactions ici, quand même de bienveillance, en disant que vous êtes à l'écoute, vous faites attention. Alors, d'où vient cette idée que forcément, si vous montrez votre liberté, les gens vont vous juger ou mal vous regarder? D'où vous vient cette idée?
Parce que...
cette presque conviction, j'ai l'impression, parce que vous le martelez fort.
Parce qu'il y a des gens qui prennent ça comme une responsabilité, du coup, de rendre la personne meilleure, de bonne humeur et tout. Et il y a des personnes qui ne veulent pas que les autres... Ouh là, j'arrive pas à parler, je suis désolée.
Tu t'entraînes très bien, hein, Sophie.
Les autres ne veulent pas que... Ils ne veulent pas se confier par vulnérabilité.
Voilà.
Tu reprends, Ethan? Non, mais tu disais, Safia, du coup, il y a des personnes qui prennent ça comme une responsabilité.
Mais qu'en gros, ils prennent pas cette responsabilité d'être. Je sais pas former ma phrase.
Ils prennent pas la responsabilité.
Bah, frère.
Non, mais qui veulent pas prendre la responsabilité de la personne, ne pas se mettre à leur place, ne pas avoir un problème en plus qu'ils en ont déjà. Donc oui. Je pense que oui, ça veut pas leur toucher à ce point.
Ok. Oui, Eda.
Moi, je trouve que si on s'approche à les gens en demandant s'ils vont bien, gentiment, poliment, et j'ai l'impression qu'ils vont aussi venir vers nous. Du même sens qu'on l'a donné. Si par exemple on vient, on commence à se moquer des gens, à leur traiter comme il faut pas, bah ils vont te traiter aussi du même façon. Mm-hmm. Ça dépend de comment tu te comportes avec les autres camarades ou les autres personnes de l'extérieur, quoi.
Ouais. Ok. Ben je vous remercie. Je vous proposais qu'on fasse une deuxième pause musicale.
Oui.
Avec qui? Avec Billie Eilish, si je dis bien, What Was I Made For?
Yes. I
nous revoici sur les ondes de Saint-Marcande, le projet radiophonique de Saint-Marcande. Donc nous sommes toujours autour de la table avec une émission avec des élèves de 4e de l'Institut Reine Fabiola. Nous sommes très heureuses de vous retrouver après cette petite pause musicale. Donc on était en train de discuter sur la question du soin et du bien-être. Vous nous avez pas mal parlé de vous, de votre condition de jeune, mais vous êtes une classe qui étudiait la puériculture. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la notion de soin dans cette section, dans cette option?
C'est faire attention aux enfants, parce que c'est un peu nous qui vont faire l'éducation de l'enfant plus tard, comment il va se comporter, etc. Si on est vraiment mauvais avec les enfants plus tard, ils vont se comporter de mauvaise manière, vu qu'on va faire la plupart de leur éducation. Ça dépendra aussi de la section, si on est en maternelle ou en crèche. Si on est à la maternelle, par exemple, on aura les enfants de 8h à 14h, 15h. On s'occupera d'eux, il faudra leur montrer comment bien se présenter, bien parler. Et s'ils nous entendent parler de manière assez mauvaise, etc., ils vont répéter.
Oui, du coup, tu as l'impression aussi que vous devez être un rôle, un modèle?
Pas un modèle, mais leur montrer un peu l'exemple de comment bien se comporter et bien agir.
Et est-ce qu'on prend...
En fait, on est dans l'option périculture pour savoir plus de c'est quoi ce métier. Parce que moi, je trouve qu'on n'en parle pas trop du métier périculture. On parle beaucoup plus du métier de maternelle. Mm-hmm. Mais avant maternelle, il y a quoi? La périculture, il y a le développement de l'enfant. Et moi, je suis dans cette option pour savoir c'est quoi le développement de l'enfant, pour en savoir un peu plus de ce que moi, je connais.
Et est-ce que pour vous, c'est important le développement quand tu dis justement, on parle beaucoup des maternelles, est-ce que c'est important toute la période avant la maternelle?
Bien sûr.
Bah oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qui...
Si, par exemple, on va dire que la famille ne sait pas s'occuper des enfants, donc elle va y aller trouver une crèche de sécurité pour garder son enfant. Et en fait, c'est... On va dire que les dames ou monsieur qui travaillent en périculture, c'est la deuxième maman ou papa de l'enfant qui va venir l'éduquer, de comment se comporter, etc.
Sabri, tu voulais réagir aussi?
J'ai oublié.
Et moi, je me demandais, comment on prend soin d'un... est-ce que c'est la même chose de prendre soin d'un bébé de 6 mois, d'un petit enfant de 3 ans ou même encore d'un adolescent de 15 ans?
Non, c'est pas la même chose, parce que par rapport à l'âge, il y a aussi la prise de conscience de l'enfant. Quand il est tout bébé, il n'a pas encore conscience de ses actes, ou quand il apprend à parler, il ne sait pas encore ce qu'il dit correctement, etc. Alors que si on prend un enfant de 15 ans, il va savoir à peu près ce qu'il dit, ce qu'il fait, si c'est mauvais ou pas. Alors qu'un vraiment tout petit, il ne saura pas faire la différence.
On va dire que les enfants de 3 ans, ils ont besoin d'amour. D'amour d'une mère, d'un père, pas vraiment d'amis, parce qu'ils sont encore petits dans leur tête. Ils ont vraiment besoin d'amour d'une mère ou d'un père. Ils ont besoin de cet amour. Mais par exemple, pour une adolescente de 15 ans, elle a besoin qu'on soit à l'écoute. Elle a besoin que quelqu'un l'écoute, qu'elle peut avoir des conseils des grands, comment ça se passe la vie, comment ça se déroule, etc.
Safia, tu voulais réagir, Ethan? Mais cette idée d'amour que tu dis, oui, il faut un enfant, un bébé, ça a besoin d'amour, mais est-ce qu'à tous les âges, tout le monde n'a pas besoin d'amour aussi?
Si, tout le monde a besoin, mais pour les enfants de 3 ans, on peut pas venir... parce qu'ils apprennent qu'à partir de 2 ans et demi à 3 ans, à vraiment s'identifier vraiment, mais genre, ils commencent à les petits mots, les phrases simples. On va pas commencer à l'écouter. On va l'écouter, mais pas comme une adolescente de 15 ans. Parce que l'adolescente de 15 ans, elle a déjà vécu des trucs à son âge. Elle a peut-être déjà des problèmes familiaux et tout. Du coup, elle aura besoin vraiment d'une écoute qu'elle peut se confier à une personne.
Mmh. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord sur la notion de donner de l'amour et qu'un bébé a besoin d'amour. Oui, il a besoin d'amour, mais de la part de ses parents, pas de la part d'inconnus qui vont s'occuper de lui. Nous, on peut l'aider à être un peu plus éduqué, et apprendre à comment se comporter, mais lui donner de l'amour, c'est pas notre, on va dire, notre fonction. C'est plutôt les parents qui doivent donner de l'amour. Le bébé, il veut de l'amour de ses parents, pas d'un inconnu.
Oui, mais si tu travailles dans une crèche, le bébé, ils sont souvent là 6-7 heures par jour. Alors j'entends ce que tu dis par rapport à la différence entre l'amour des parents. Mais est-ce que quand même, quand tu travailles avec des petits, des tout-petits, est-ce que c'est important d'avoir quand même un rapport, un lien d'affection ou en tout cas de confiance?
Bien
ou...
sûr, un lien d'affection et de confiance. Montrer à l'enfant qu'il peut nous faire confiance, qu'on peut s'occuper de lui, etc. Ça, bien sûr, il faut que l'enfant il sache ça, qu'il peut, que tout ça peut venir de nous. Mais je ne pense pas qu'on devrait remplacer l'amour des parents par le nôtre, parce que ça pourrait engendrer des trucs, comme l'enfant, il pourrait ne pas être content en étant avec ses parents, ou s'il rentre à la maison, il va trop être attaché à nous, mmh. Il pourra se sentir triste à la maison.
Ethan, tu voulais réagir?
En fait, quand un enfant est en crèche, ben, c'est forcément parce que les parents travaillent des deux côtés. Genre, le papa travaille, la maman travaille jusqu'à tard. Et du coup, ils nous déposent ici parce qu'il n'y a personne pour garder leurs enfants. Nous, les parents, on a d'abord besoin que les parents ont confiance aux péricultrices pour qu'ils puissent déposer leurs enfants en sécurité. Mm-hmm. Si ils voient que les parents, les péricultrices ou le périculteur ne sait pas faire son job, ben, elle va d'office pas déposer son enfant là-bas.
Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans une société qui met beaucoup de choses en place pour la petite enfance, enfin pour les bébés de 0 à 3 ans?
Personnellement, je trouve que sur Etterbeek, oui, il y a eu des nouvelles crèches qui ont été construites, etc., pour mieux s'occuper des enfants, avec tout un aménagement tout nouveau, avec plein d'espace pour les enfants, pour qu'ils s'épanouissent vraiment dans la crèche. Et...
Moi, perso, à la commune que je viens, il y a plus de crèches néerlandophones que francophones. Et ça, je trouve que c'est injuste. De ce que je connais, il n'y a que deux crèches francophones à Anderlecht.
C'est vrai, ça me paraît vraiment pas beaucoup.
Il y a vraiment peu. Mais de ce que je connais, il n'y en a que deux.
Ok, oui.
Et du coup, je trouve qu'il faut augmenter les crèches parce que... Ok, dans une crèche, on ne peut pas avoir 18 enfants d'un coup, alors que si on n'est que deux à s'occuper. Moi, je trouve qu'il faut avoir plusieurs crèches où les parents ils peuvent déposer à plusieurs endroits. Mm-hmm. Et par exemple, disons que la maman ou le papa doit déposer l'enfant à 6h30 pour qu'il part à 7h. Bah, il doit trouver une crèche près de lui, mm-hmm. au lieu de sortir une heure avant de chez lui pour déposer l'enfant, puis partir à son boulot, quoi.
Et à votre avis, quelles sont les difficultés que les parents peuvent rencontrer quand ils ont des enfants en bas âge?
Le manque de temps par rapport au travail. S'ils n'ont pas le temps pour s'occuper d'eux parce qu'ils commencent trop tôt ou ils finissent trop tard, nous, on sera là pour eux. Mais c'est surtout ça le problème qui revient chez les parents. Ou... Ouais, c'est ça.
En fait, la maman ou le papa va quand même donner son amour pendant le reste de la soirée. Une fois qu'ils vont venir chercher leur enfant, mais l'enfant va un peu beaucoup plus passer de temps avec nous, les péricultures. Du coup, nous aussi, on doit montrer c'est quoi l'amour, quoi. Parce que si on s'occupe d'un enfant sans donner l'amour, ben, l'enfant va croire qu'il n'y a pas d'amour. Alors que si, c'est déjà qu'il ne voit pas assez d'amour de ses parents parce qu'il travaille. Et si nous aussi, on ne montre pas, ben, l'enfant il sera en manque d'amour, quoi. Mm-hmm.
Moi, je voulais vous demander, parce que vous parlez beaucoup de la fonction de la crèche, enfin que les parents, en tout cas, ont beaucoup recours à la crèche parce qu'ils travaillent. Est-ce que, selon vous, la crèche, elle ne peut pas remplir un autre rôle que uniquement s'occuper des enfants quand les parents? Quel rôle ça pourrait être?
Si, bien sûr.
Quel autre rôle la crèche pourrait endosser? Les péricultrices pourraient endosser aussi
Ça peut aider l'enfant à devenir un peu plus sociable, ça peut aider l'enfant à s'épanouir. Moi, ma maman, elle travaillait dans une crèche. Dans la crèche, là-bas, ils lisaient des livres, ils leur apprenaient à lire, à l'alphabet. Même les enfants qui ne parlaient pas français, ils apprenaient le français là-bas, ils savaient apprendre quelques mots. une crèche, ça peut remplir plein de conditions. Ça dépend juste des personnes qui travaillent dedans.
Et est-ce que vous trouvez que c'est des métiers qui sont assez valorisés ou pas?
Non.
Quand tu dis non, enfin,
ils sont pas assez, enfin, un truc mondial en mode. On trouve pas que c'est important pour la société, les crèches.
Et à votre avis, pourquoi?
C'est parce que, par exemple, si la maman n'a pas trouvé de crèche, on va dire, et qu'il y en a un, mais qu'elle n'a pas fait confiance aux périculteurs, bah, elle va dire, alors je vais prendre du temps pour m'occuper de mon bébé. Une fois qu'il sera en maternelle, bah, je déposerai à l'école. Ça dépend aussi de comment nous, les périculteurs, on va se comporter devant la famille. Comment on va se justifier, se présenter, se comporter devant eux.
Oui, oui, donc il y a aussi une responsabilité des travailleurs de la petite enfance, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses qui influencent en fait ça aussi, quoi. C'est pas que les travailleurs, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une petite pause musicale avec Déconnecté de PNL. C'est parti. Nous revoici sur les ondes de Saint-Marc-Onde pour la dernière partie de l'émission. Donc voilà, nous sommes toujours en compagnie d'une classe de 4e de l'Institut Reine Fabiola. Et pour clôturer en fait cette émission, on voulait vous demander avec Joséphine, c'est quoi pour vous une société qui prend soin des uns des autres? C'est quoi une société qui prend soin des autres? Que si tu devais imaginer un monde idéal, comment tu le verrais pour que la société prenne soin des uns et des autres? Qu'est-ce que tu mettrais en place?
Moi, je pense, qu'est-ce que moi je pourrais mettre en place si je devrais redéfinir un monde totalement bien? C'est enlever toute forme de discrimination et chaque souci mental comme physique devrait être réglé assez rapidement et pas faire attendre, parce que la plupart, par exemple, une psychologue, ça va prendre un ou deux mois. Et chaque rendez-vous, ça va être tous les mois, alors que la personne, on ne sait pas ce qu'elle peut faire pendant un mois.
Moi, je trouve qu'il faudrait d'abord changer l'endroit où on vit. Si par exemple, c'est un endroit qui est très nombreux, qu'il y a beaucoup trop de bruit, ben, moi, je préférerais d'aller dans un quartier plus calme, où il y a de la nature. Parce que ici à Bruxelles, il y a plus de meubles.
Il y a beaucoup de pollution également.
D'immeubles okay. Que de nature. Il y a de peu en peu d'arbres dans Bruxelles.
Donc ouais, ça passe vraiment par l'environnement, des parcs, des arbres.
Oui, voilà.
Moins de bruit.
Moins de caca aussi.
Bah voyons.
Mais c'est vrai.
Est-ce que, Ethan, tu voulais réagir ?
Bah qu'il y a beaucoup plus de pollution en ville qu'en campagne. Mm-hmm. Parce qu'en ville, on est beaucoup plus qu'en campagne, tout simplement. C'est plus simple d'accès à la campagne. Il y a moins d'embouteillage, tout ça. Moins de voitures qui passent.
Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des bonnes choses dans la ville ?
Bien sûr, la ville apporte plein de bonnes choses, comme... on peut tout trouver près de nous. On a besoin de médicaments, on aura directement une pharmacie. On a besoin de manger, il y aura de quoi aller chercher à manger à côté de nous. Alors que par exemple, une campagne, peut-être il y a une heure de voiture qui nous sépare d'une pharmacie. Il y a une heure de voiture ou deux aussi qui nous sépare d'un centre commercial ou d'un grand magasin, des hôpitaux.
Ouais. Et là, on parlait un peu au niveau de la société, mais aussi à un niveau plus petit, par exemple, à l'échelle de votre école ou de votre classe. Ça serait quoi, vous, une classe où vous prenez soin des uns des autres ?
Franchement, moi, comparé aux autres classes que j'ai eues, je trouve que notre classe, elle est assez bienveillante. Parce que comparé aux autres classes que j'ai eues, c'était déjà des classes, la plupart, que de garçons. Et là-bas, quand c'est que deux garçons, y a beaucoup de moqueries, il y a beaucoup de disputes qui partent pour un rien parce que je dirais que c'est la fierté masculine qui joue en jeu là-bas. Si on montre qu'on est faible dans une école où il y a que des garçons, on va se faire marcher dessus. Mais vu que là, je suis dans une école de périculture, aide-soignant, tout ce qui est un peu dans le domaine médical enfant, ça regroupe beaucoup plus de filles et vraiment la mentalité entre filles et garçons est vachement différente. Dans ma classe, je pense pas avoir vu une dispute entre filles par rapport à un bête truc comme quoi quelqu'un avait mal regardé ou quelque chose comme ça.
Moi, je dis être bien dans sa classe, c'est l'ambiance. C'est comment se déroulent tes journées. Si, par exemple, tu as une ambiance qui ne te donne pas envie d'aller à l'école, tu vas y aller à l'école pour y aller. Là, moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'ambiance de ma classe. Donc, je vais à l'école pour rejoindre mes amis, rentrer dans mes cours. Genre, on va dans les cours, on travaille, mais dans chaque cours, moi, je trouve qu'il faut faire aussi une petite connerie.
Des petites bêtises.
Voilà.
Et je voudrais bien aussi vous entendre, vous. Qu'est-ce qui... En quelques mots. Ouais, juste en quelques mots, c'est quoi une chouette ambiance de classe
Comme Eda La Turque a dit, je trouve qu'il faut avoir une bonne ambiance, des gens qui s'entendent bien avec tout le monde, qui sont là pour s'entraider, pas laisser les autres dans la galère, que ce soit en cours ou en dehors des cours. Mais surtout dans la classe, bien accueillir les autres, les nouveaux. Et voilà.
Ethan, toi, tu partages ça aussi ?
Oui.
Moi aussi.
Vous voulez rien rajouter ? Mais on vous remercie pour cette émission qui se termine.
Oui, merci pour votre participation.
Merci
à vous. De rien, avec plaisir.
Et on va lancer le dernier son qui est...
L'omil.
Comment on dit?
Je connais pas.
C'est Hailupita. Hailupita. C'est qui nous a donné ça?
Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no eres chiquita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, ay que sí, dame cinturita. 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 Ay, Lupita. Ay, deja tu frescura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura, si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mi comarido, ahora el ego y eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita, ay que sí, dame, ay Lupita, ay que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, ay que sí, dame cinturita. Ay, 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 de los miel, sí, sí, ese mismo es el que canta y produce, sí, 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 los miel también produciendo, ese mismo es el dueño de color psicópata. No hay que hablar con nadie, con cuero, macho, récole.
Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no me eres chiquita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Dame cinturita, ay, 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 Lupi, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame cinturita, ay, que sí, dame, ay, Lupi, sí, que sí, dame cinturita, sí, que sí, dame cinturita, sí, que sí, dame cinturita. Ay, deja tu frescura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura, si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mi comarido, ahora el ego y eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, 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 dame cinturita. Ay, 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 Lupita, ay, que sí, dame cinturita. I can't see, dame cinturita, I can't see, dame cinturita, I can't see, dame, ay, Lupita, I can't see, dame cinturita, I can't see, dame cinturita, I can't see, dame cinturita. Ay, ay, es de los miel, sí, sí, ese mismo es el que canta y produce, sí, 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 los miel también produciendo, ese mismo es el dueño de color del psicópata, no hay que hablar con nadie, con cuero, macho, récole,
Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no me eres chiquita. Ay, 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 Lupita, sí que sí.